œuvré, en fait, au fil des années, au fil des siècles. Et le verset dans les Actes des Apôtres, qui fonde la base de cette prêche, est en fait comme une sorte de tremplin pour montrer tout ça. Je vais d'abord vous lire l'extrait. Alors à Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler et celui-ci fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'est lui qui prenait la parole. Le prêtre de Zeus, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena les taureaux avec des guirlandes vers les portes. Il voulait, comme la foule, offrir un sacrifice. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il a fait. Il vous envoie du ciel les pluies, les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. C'est à peine s'il pure par ses paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium les Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Voilà, je vais moins rentrer dans le détail de ce texte, ça va être plus une perspective un peu plus globale et historique. J'avais vraiment à cœur de le faire, il y avait plusieurs moyens pour moi d'aborder cette prêche et j'ai choisi un chemin et qui m'a semblé être le bon. Voilà, donc pour commencer, je vous propose un petit peu de remonter dans le fil de la culture et de la religion romaine de cette époque. Parce que c'est intéressant de comprendre un peu quel était le système théologique des Romains, je pense, avant la christianisation. Donc en fait, Rome, à la base, c'est une ville-État qui a été fondée en -753, donc 753 ans avant Jésus-Christ, avec un panthéon de dieux, hein, des différents dieux, spécifiquement romains. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces dieux spécifiquement romains. On entend souvent parler des dieux gréco-romains, mais les dieux spécifiquement romains s'appellent du style Vulcain, Janus, Saturne, Quirinius, Fanus. À la base, ce sont cinq dieux. Et en fait, le panthéon des dieux romains s'est agrandi au fur et à mesure de l'expansion territoriale des Romains. Et en fait, ils ont adopté les dieux des autres peuples qui conquéraient, parfois en gardant le nom d'origine, parfois en le changeant. Et donc, au temps de Paul, les Romains vénéraient environ 80 dieux. Et donc ils sont passés de 5 à 80 en à peu près 700, 800 ans. Et la majorité de ces 800 dieux ont été importés de la théologie grecque par syncrétisme, donc une espèce de fusion des systèmes théologiques. J'ai des exemples, par exemple, Angita, c'est la déesse de la guérison. Bacchus, c'est le dieu de la vigne, mais qui est devenu Dionysos dans le rapport avec les Grecs. Cupidon, c'est le dieu de l'amour, l'équivalent d'Eros chez les Grecs. Eternitas, personnification de l'éternité. Onos, celle de l'honneur. Lupercus, c'est le dieu des troupeaux. Terra, c'est la personnification de la terre, l'équivalent de Gaïa chez les Grecs. Et justement, Mercure, l'équivalent, c'est Hermès chez les Grecs, c'est le messager des dieux. C'est pour ça que, vu que Paul parlait, les gens de Lystre pensaient que c'était lui, Hermès, messager des dieux. Et tout ce petit monde est gouverné par Jupiter, donc Zeus chez les Grecs. Et voilà, donc je pense que en racontant cela, peut-être que vous faites des parallèles un petit peu avec les gens qu'on côtoie, dans la société, à notre travail. Moi, je trouve qu'il y a des liens intéressants à faire. Donc justement, il y a plusieurs dieux. Chaque dieu incarne une réalité que vivent, voient ou imaginent les individus. Ce sont des dieux qui habitent à quelque part. Ils sont dans le cosmos. Les dieux grecs, romains, sont insérés dans des récits, dans des mythologies. Ils ont, dans ces récits, ils ont des relations entre eux, mais pas avec les humains, ou peu. Par contre, ils sont vénérés par les humains. Donc, là, je reprends les propos de John Scheid, qui est professeur au Collège de France. Les Romains assument avant tout des obligations religieuses. Donc, il y a des rites qu'ils doivent exécuter pour avoir la faveur des dieux. La foi, comme nous la connaissons, comme les connaissent les chrétiens, leur est un concept totalement inconnu. Et la religion romaine n'est pas révélée par un dieu. Il n'existe pas de livre. Et il n'existe pas de dogme. C'est en fait des traditions rituelles qui sont transmises dans la famille, dans le clan ou dans la ville. Et c'est une filiation qui s'impose à vous par votre famille. Et elles sont différentes de famille en famille. Donc il n'y a pas une seule manière de croire. Ce n'est pas une religion universelle. Et il n'y a pas non plus la notion de conversion. Okay, donc, on accepte, chacun a sa manière de croire, puis il y a ce côté, il y a le côté tolérant en fait, très tolérant dans la religion romaine. Pour revenir un petit peu au verset. Les habitants, donc, sont convaincus que Paul et Barnabas sont des dieux qui leur rendent visite. Pourquoi ? Parce que, selon la légende, les dieux avaient un jour visité Lystre. Et comme personne ne leur avait offert l'hospitalité, à part un couple âgé, Zeus et Hermès avaient tué les habitants et récompensé le couple. Et voilà pourquoi Paul et Barnabas ont tant de peine à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Et moi, ce qui me frappe dans cette relation entre les Romains et les Juifs, c'est d'un côté, on a les Romains du 1er siècle qui sont une puissance très développée. Les Romains maîtrisaient les techniques avancées de métallurgie et d'architecture. Ils savaient construire des charrues en fer, du béton, des verres à vitre, donc comme nous on les connaît, des aqueducs, des barrages, des thermes, des ponts, des tunnels, des voies, des égouts, des miroirs. Et ils savaient produire des cartes routières fiables. Et ils utilisaient aussi l'ABAC pour calculer et commercer. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'ABAC, c'est une sorte de planche avec différentes zones et avec des pions, des cailloux. En fait, on peut plus ou moins calculer. C'est comme un boulier. Mais si les Romains surpassent techniquement, socialement, économiquement, militairement la plupart de leurs voisins, ce n'est pas le cas au niveau religieux. Leur système de croyance est semblable à celui des autres peuples qui sont sur la terre à cette période de civilisation. Donc les Grecs, les Mayas, les Aztèques, les Égyptiens, les Vikings, les Babyloniens, les Slaves antiques, les Germains, les Celtes. Ces systèmes de croyance sur la terre sont systématiquement semblables, polythéistes, etc. Et l'encyclopédie World History dit, dans le monde antique, le concept de monothéisme tel que nous le comprenons aujourd'hui n'existait pas. Tous les peuples anciens étaient polythéistes. Ils peuvent peut-être avoir un dieu élevé à un niveau plus haut que les autres, mais tous reconnaissent l'existence de la multiplicité divine. Est-ce que tous les peuples sont polythéistes? Non. Un seul peuple fait les choses et croit différemment, inspiré par le vrai seul Dieu. Les Hébreux, donc. L'hébreu vient de l'hébraïque ivri, qui fait référence à l'origine nomade de ce peuple. Ils n'ont pas conquis le monde méditerranéen, mais au contraire, leur histoire est faite d'exploitation, de déportation et d'invasion subie, sauf quelques exceptions. En termes de développement et de conquête, le peuple hébreu est en quelque sorte à l'exact opposé des Romains, de la puissance romaine. Et malgré ce sous-développement, on va dire comme ça, les Hébreux cultivent une spiritualité tout à fait unique, sans pareil sur la planète entière à cette époque. En effet, avant l'apparition de l'islam en 610, leur Dieu unique est le seul Dieu unique de toute la terre, en tout cas selon les connaissances archéologiques. Tous les autres sont, comme je l'ai déjà dit, polythéistes. Donc, encore une fois, cette encyclopédie World History précise, l'histoire fondatrice de l'idée que les Juifs étaient monothéistes apparaît lorsque Moïse reçoit les commandements de Dieu sur le mont Sinaï et qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Et donc ce Dieu de ce peuple est unique, omniscient, omniprésent, tout-puissant, créateur de toutes choses, et, pour citer Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et Jésus est le Fils ressuscité du Dieu vivant. C'est cette bonne nouvelle que Paul et Barnabas dissémine au fil de là où l'Esprit Saint les emmène. Et pour revenir à notre texte, on voit que c'est vraiment une fenêtre sur ce que vivent Paul et Barnabas. C'est vraiment à quelque part laborieux. Par exemple, ils vont guérir cet impotent et pourtant ça ne va pas convertir les gens autour d'eux. Les gens ne se mettent pas à genoux et disent « Oh Dieu, oui, nous te reconnaissons dans toute ta puissance. » Non, pour eux, des dieux grecs et romains qui sont venus sur terre. Et Paul et Barnabas ont beau défendre l'origine divine de ce miracle, les gens de Lystre ne veulent pas l'entendre. Donc on a l'impression que la tentative d'amener Jésus à ce peuple romain de l'Istre semble un échec. Et dans une perspective un peu plus large, les voyages de Paul dans l'Empire romain sont plutôt, on va dire, pour le moins tumultueux. Ses voyages se terminent par son arrestation, puis sa comparaison devant les instances successives pour finir devant le roi Agrippa, qui le traite de fou, mais qui lui dit aussi « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Et après la prêche de Paul à Rome en l'an 62, le récit de la Bible s'arrête, mais certaines sources historiques relatent la suite des relations entre l'Empire romain et le christianisme. Selon l'historienne Marie-France Ballet, un document impérial atteste qu'en l'an 112, encore, le christianisme était interdit. Il était interdit alors que toutes les religions précédentes avaient été absorbées sans aucune forme de procès. Vous voyez un peu tout d'un coup ce qui se passe avec. Il y a comme une crispation, on a l'impression, avec le christianisme. L'année 250, précisément, marque une rupture dans le développement de la christianisation. C'est même, en fait, le début d'une politique de persécution vis-à-vis des chrétiens, décrétée sous trois reines, trois empereurs, celui de Dèce en 249, Valérien en 257, Dioclétien et ses collègues à partir de 303. Donc il y a plusieurs décrets qui favorisent en fait la persécution des chrétiens même. Avant c'était juste interdit, maintenant on les persécute. Mais selon l'historienne, le christianisme reste dynamique face aux persécutions. Et les martyrs firent des convertis, jusqu'à toucher l'empereur Constantin lui-même, qui en 313, par l'édit de Milan, garantit la liberté de culte aux chrétiens. Ensuite, la voie était ouverte pour que le christianisme évolue en religion d'État, ce à partir de l'édit promulgué par Théodose Ier en 381, qui en fait la religion officielle de l'Empire romain. Donc en fait, en quelques années, on a une sorte de renversement complet. Et voilà donc, malgré cette faiblesse et l'insignifiance de ce peuple juif, malgré la folie du message transmis, malgré les déboires et même les martyrs des apôtres, c'est la bonne nouvelle qui vient du Dieu unique qui va remplacer les dieux, les faux dieux de la puissante Rome, dans une sorte de renversement complètement incroyable en à peu près 70 ans. Et finalement, le fait que la religion chrétienne devienne la religion officielle est un mélange de religion et de politique qui s'avère pas très bon. Mais ce que moi je ressens, c'est que c'est quand même le symptôme de ce qui s'est passé dans le cœur des gens, dans le cœur des Romains, qui se sont les uns après les autres donnés à Christ. Et je vais conclure en lisant un extrait du psaume 96, puis par une prière. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplisse son sanctuaire. Oui, Seigneur Jésus, je te demande de nous inspirer, de nous donner la force, comme à Paul et à Barnabas, pour, avec la guidance de ton Saint-Esprit, parler de la résurrection de ton Fils à nos amis, à nos collègues. Et Seigneur, que ce soit une joie d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous, Seigneur. Et même si on ne voit pas les résultats dans l'immédiat, même si c'est difficile, Seigneur Jésus, on sait que toi, tu as les choses en main et qu'à long terme, même si ça doit durer des années, même si ça ne se passera pas dans notre vie, Seigneur, toi, tu nous guides et tu guides ces choses. Mais Seigneur, vraiment, je veux te demander de nous donner ce courage, cette force. Ouvre notre cœur vis-à-vis de nos contemporains, qu'on puisse les comprendre aussi. Comprendre de quoi ils ont besoin. Et Seigneur, ils ont besoin de toi. Moi, Seigneur Jésus, je te remets notre église de Villars et qu'on puisse jouer ce rôle ensemble. En ton nom, Jésus-Christ, amen.